Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci tout d'abord à la BPI pour l'organisation de cette matinée et l'invitation qui m'a été faite. Prestart, c'est un festival qui rythme un petit peu l'année des jeux vidéo en bibliothèque. Moi, ça fait depuis le lancement du festival, je regarde la programmation que je trouve chaque année toujours plus enrichissante. Et sur laquelle je m'inspire moi-même pour bien les événements que je mène de mon côté. Donc je me présente, Nicolas Péris, je travaille dans les médiathèques de Cergy en tant que référent jeux vidéo. Je suis également responsable de la commission jeux vidéo de l'ABF et je m'occupe, comme on l'a dit tout à l'heure, du site jeuxvideotech.com qui est une boîte à outils participative destinée aux bibliothécaires afin de partager son expérience, que ce soit autour de ses pratiques en bibliothèque, autour des jeux, afin de permettre à ceux qui débutent dans ce domaine, notamment, de pouvoir s'inspirer, de pouvoir trouver des idées et de pouvoir avoir des outils clés en main tout simplement pour pouvoir se lancer à leur tour. Voilà, il y a aussi un Discord qui va d'ailleurs s'ouvrir très prochainement où on pourra échanger davantage entre professionnels, aussi bien des bibliothèques que professionnels du milieu du jeu vidéo, puisque l'idée c'est aussi de rassembler tout ce petit monde pour permettre justement davantage d'échanges et faire en sorte que le jeu vidéo ne soit pas seulement présent en bibliothèque qu'à partir des jeux en eux-mêmes, d'actions, de tournois, de choses comme ça, mais où qu'on puisse avoir des échanges directement avec les professionnels pour justement développer davantage d'actions. Voilà. Et je vais laisser la parole à Gabrielle Lavenir, donc chercheuse et doctorante en sociologie, secrétaire de l'OMNSH, qui va nous faire un état des lieux sur les usagers et les usages du jeu vidéo, perspective sociologique. Je vous laisse en dire un peu plus sur vous.
Merci beaucoup. Vaste programme. Je suis absolument ravie d'être ici et je suis absolument ravie de vous avoir en face de moi. C'est presque inespéré. Donc moi, je suis chercheuse en sociologie. Je travaille en particulier sur les pratiques et les représentations du jeu vidéo chez les gens de plus de 60 ans. C'est mon cœur de métier. Et puis, je suis secrétaire de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines qui, historiquement, a beaucoup travaillé pour mettre en place des échanges entre des chercheurs et des chercheuses qui sont spécialisés dans le domaine du jeu vidéo et des professionnels en bibliothèque ou en médiathèque. Donc ma présence ici me paraît parfaitement logique, ce qui est toujours rassurant. Donc, moi, je vais vous faire un état des lieux avec un peu de recul, donc pas uniquement en ce qui concerne la présence du jeu vidéo dans les bibliothèques, mais je vais m'intéresser à un état des lieux sur les usagers, les usagères, les usages du jeu vidéo en général. Je vais avoir deux grandes questions. La première, c'est une tentative de réponse à la question « qui joue ?». Et la deuxième, ça va être une proposition de réponse à la question « mais comment est-ce que les gens jouent ? Comment jouons-nous ?» Alors, pour ce qui est de la première question, « qui joue ?», j'aimerais beaucoup pouvoir vous répondre simplement et vous donner un chiffre. Mais évidemment, ça n'est pas aussi simple que ça, et ça n'est pas uniquement parce que les sociologues aiment beaucoup compliquer les choses. Pour essayer d'illustrer mon point, je vais vous présenter les résultats de différentes enquêtes statistiques qui sont très proprement faites, il n'y a rien à reprocher dans la méthode, et qui posent la question, au cours de l'année qui vient de s'écouler, est-ce que vous avez joué à des jeux vidéo ? Il y a plusieurs enquêtes qui ont été faites à peu près au même moment, qui posent à peu près la même question à des échantillons représentatifs assez massifs. Donc c'est intéressant de pouvoir les comparer. Si on regarde une première étude, qui est l'étude d'un institut de sondage pour le CEL, donc le syndicat des éditeurs de logiciels ludiques, une enquête faite en 2019, la réponse à cette question est de 71%, et c'est sans doute un chiffre que vous avez vu ou que vous verrez assez régulièrement. Il est très cité pour montrer que presque les trois quarts des Français et des Françaises jouent au moins occasionnellement. Là où ça devient intéressant, c'est que la même question posée un an avant, mais dans un autre contexte, celui de l'enquête pratique culturelle des Français de l'INSEE, va donner un résultat légèrement différent. On tombe à 44%. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'il est assez fréquent que des études sur le même sujet donnent des résultats différents, mais qu'il y a un écart pareil, qu'on passe de presque les trois quarts des Français et des Françaises à moins de la moitié, lié à Anguille Souroche. Et en fait, mon principal argument sur cette partie-là, c'est que beaucoup de gens jouent. Il est très difficile de savoir combien de gens jouent à peu près exactement, et en soi, c'est une information très riche, c'est une information stratégiquement importante. Je vais vous expliquer pourquoi je pense ça, en présentant les différentes raisons pour lesquelles on a un écart pareil dans les chiffres. La pratique des jeux vidéo est particulièrement difficile à mesurer. C'est vrai de beaucoup de pratiques culturelles, mais c'est particulièrement vrai du jeu vidéo, pour plusieurs raisons. Déjà, il y a le fait que les méthodologies d'enquête ne sont pas exactement les mêmes, ça joue toujours. Mais pour un écart pareil, il faut aller plus loin. Pourquoi il y a un décalage aussi important ? Parce que, en ce qui concerne la pratique des jeux vidéo, les gens, surtout les adultes, ont une énorme tendance à la sous-déclaration, pour une série de raisons. L'héritage des paniques morales des années 90 sur les jeux vidéo, des gens qui ont vécu une grande décennie pendant laquelle un des discours politiques et médiatiques dominants sur le jeu vidéo était les risques, la question de la violence, de l'addiction ou de l'abrutissement. Il y a aussi le fait que c'est une pratique culturelle qui est encore relativement peu valorisée. Et dans le cas notamment de l'enquête de l'INSEE, ce qui est intéressant, c'est que cette question est casée entre des questions sur est-ce que vous lisez beaucoup de romans et est-ce que vous fréquentez beaucoup les musées. Donc coincé entre des pratiques culturelles qui sont particulièrement légitimées, forcément le jeu vidéo, il a pris un coup. Il y a une autre raison à cet écart, c'est que c'est une pratique au contour très flou et il y a beaucoup de variations chez les gens sur ce qui compte comme du jeu vidéo ou pas. Par exemple, on peut entendre des gens qui expliquent que certes, ils jouent tous les jours à Candy Crush, mais ça n'est pas du jeu vidéo, c'est un jeu sur téléphone. Ou que certes, pendant une grande partie de leur carrière professionnelle, ils ont ouvert le solitaire tous les matins pour se détendre avant de commencer, mais ça n'est pas du jeu vidéo, c'est juste le solitaire qui est préinstallé. Tout ça étant accentué par des représentations autour de qui joue à des jeux vidéo, qui est centré sur la figure du jeune homme, adolescent ou jeune adulte, qui joue de manière très intense, un type de jeu particulier, une fréquence très élevée, et on se retrouve avec un côté Monsieur Jourdain, où beaucoup de gens vous assurent qu'il et elle ne jouent pas, alors que ce sont des gens qui peuvent jouer, y compris assez fréquemment. Pour illustrer ce point, j'ai pris un extrait d'un entretien que j'ai eu avec une dame que j'ai rencontrée lors d'un terrain, une enquête que j'ai faite il y a quelques années, et c'était absolument passionnant parce qu'au cours de la conversation, cette dame que j'ai rencontrée dans un atelier de pratique de jeux vidéo, donc elle venait toutes les semaines pour jouer, cette dame commence à m'expliquer qu'elle ne jouait pas avant et qu'elle ne joue pas en dehors de l'atelier, et vous allez voir qu'à mesure qu'on avance dans la conversation, entre le début et la fin, il s'est passé bien 45 minutes, on a une réponse fort différente. Ça paraît un peu laborieux, mais je veux vraiment souligner à quel point la plupart des gens qui disent qu'ils ne jouent pas, en fait, jouent. Et un des gros enjeux stratégiques est d'aller parler à cette population, à laquelle on ne peut pas simplement parler en disant « Venez, on va jouer à des jeux vidéo ». Parce que leur réponse spontanée, en fait, ça ne me concerne pas. Moi, je ne fais pas ça. Donc je demande à cette dame si elle connaissait les jeux vidéo avant de venir à l'atelier. Sa réponse est qu'elle les connaissait, mais qu'elle ne pratiquait pas, qu'elle ne jouait pas. Et alors je continue à poser la question parce qu'il y a quelque chose qui me fait douter. Elle me dit « Oui, j'ai joué à Tetris ou Pac-Man, mais je ne pratiquais pas vraiment. » On continue. Je l'avais mis sur mon téléphone. Et plus loin dans la conversation, alors qu'on s'est mis à parler d'autre chose, on rebifurque. Et donc du coup, je constate que « Mais attends, toi, tu jouais à des jeux vidéo en fait avant l'atelier. » Et sa réponse, c'est « Oui, mais ce n'était pas tous les jours. » Donc en gros, au cours d'une conversation, on parle de « Non ». Je connaissais vite fait, mais je pratiquais pas, je jouais pas. Ah, c'est sur mon téléphone et j'y joue, mais bon, pas tous les jours quand même. Et ça, c'est quelqu'un à qui, quand on pose la question au début, est-ce que tu jouais à des jeux vidéo avant, vous répondra non. Et c'est typiquement quelque chose qui explique l'écart que je vous montrais tout à l'heure. Et la raison pour laquelle je mets tellement de temps à répondre à la question, mais qui joue à des jeux vidéo au sens de combien, quelle proportion de la population joue à des jeux vidéo. Là, ce que je voudrais faire, c'est m'intéresser à une enquête qui, maintenant, date un petit peu, puisqu'elle a été faite en 2012. Enfin, ses données portent sur 2012, mais c'est une enquête très intéressante, puisqu'elle a été faite par des chercheurs et des chercheuses qui travaillent sur le jeu vidéo, et qui ont donc, en étant conscients des obstacles méthodologiques, fait des questions spéciales pour capter les gens qui pensent qu'ils ne jouent pas, mais qui jouent quand même. Je vous ai mis un exemple de question. En fait, il y a une suite de questions. On ne dit pas « Est-ce que vous jouez à des jeux vidéo ?» mais « Est-ce que vous avez joué sur un support de jeux vidéo, à un jeu de ce type, par exemple bidule, truc et machin. Et quand on pose la question comme ça, alors en 2012, hein, ça date un peu, mais on a à peu près 60% des adultes qui répondent oui, ce qui est une proportion beaucoup plus élevée que quand on regarde notamment l'enquête de l'INSEE, mais aussi l'autre enquête, parce que l'enquête de Médiamétrie s'adresse à des répondants et répondantes de 10 ans et plus, qui captent aussi tous les enfants et les adolescents, dont le taux de pratique, on va le voir tout à l'heure, est très élevé. Donc, on arrive bien sur le fait que la plupart des gens jouent. En plus, ça, c'est des données qui ont 8 ans, et on peut imaginer que ça a changé depuis. Mais, en fait, les enquêtes qu'on fait aujourd'hui ont parfois du mal à capter à quel point c'est un phénomène d'ampleur, parce qu'il est difficile d'obtenir des réponses, il faut déployer beaucoup d'énergie. Maintenant que j'ai à peu près proposé ma réponse à combien de personnes jouent, je vais me décaler un petit peu, faire un pas de côté, et m'intéresser à qui joue. Je pense que je vais vous dire des choses qui ne vous surprendront pas, et ce d'autant moins que le reste de la programmation va aborder une grande partie de ces thèmes. Là, je m'appuie encore une fois sur les résultats de l'enquête Ludespace, qui ont donné lieu à beaucoup de publications. Vous devriez avoir accès à mes diapos après. J'ai vraiment pris soin de vous mettre les références systématiquement. Je n'ai pas le temps de vous présenter tous les travaux, donc j'ai choisi de me concentrer sur cet article en particulier. Qui s'intéresse aux variables corrélées à la pratique du jeu vidéo. Donc, la première variable, et ça ne va surprendre, à mon avis, personne dans cette salle, c'est l'âge. Sans doute l'âge et la génération, mais on n'a pas assez de données pour vraiment distinguer l'effet d'âge et l'effet de génération. Je vous ai mis un des graphiques qui montre, en gros, tout ce qui est bleu, c'est des gens qui jouent au moins une fois par an. Et tout ce qui est en blanc, dans les colonnes, c'est des gens qui ne jouent jamais, au sens, ils n'ont pas joué une seule fois au cours de l'année écoulée. Vous voyez à quel point ça varie fortement en fonction des classes d'âge, et je vous confirme par ailleurs que c'est la principale variable. Il y a d'autres variables qui sont corrélées, en particulier la catégorie socio-professionnelle, qu'on oublie souvent, au sens de la classe sociale en fait, le niveau de diplôme, la situation familiale, le fait de cohabiter ou pas avec des enfants a un impact très fort sur la pratique, et le genre, évidemment. Je sais que ce sont, notamment pour ce qui est du genre et de l'âge, des sujets qui vont être abordés plus tard, donc j'ai choisi de ne pas m'appesantir dessus dans le cadre de cet état des lieux, mais je ne veux pas sous-estimer l'importance de ces différentes variables. Et puis, pour clore cette partie sur qui joue et embrayer sur comment est-ce que les gens jouent, une réponse en trois points, en fait, la plupart des gens jouent. Donc la pratique du jeu vidéo, elle est très répandue. Au moins les deux tiers des Français et des Françaises adultes jouent, au moins une fois par an. Quand on s'intéresse à une pratique une fois par semaine au moins, c'est... j'ai un blanc sur les statistiques, évidemment, puisque je suis sur scène face à un micro filmé, c'est toujours comme ça. Il me semble que c'est 3 femmes sur 10 et 4 hommes sur 10 en France, en 2012. Mais on n'a pas dit grand-chose quand on a dit que c'était très répandu. En fait, elle est aussi inégalement diffusée, et il y a une énorme différenciation par l'âge. Et puis, le point que je voulais mettre en avant, parce qu'à mon avis, c'est ce que je peux vous apporter, pas de nouveau, mais d'intéressant stratégiquement, c'est le fait qu'elle est peu visible, elle est sous-déclarée, et elle est souvent même peu visible aux yeux même des personnes qui jouent. Ceci étant posé, maintenant la question suivante, comment on joue ? Parce que répondre de manière binaire à est-ce que vous jouez, est-ce que vous ne jouez pas, c'est avoir une approche qui est intéressante, mais qui est très lointaine de la question. Il faut s'intéresser à comment les gens jouent. Et les pratiques sont extrêmement diverses, que ce soit en ce qui concerne le contenu des jeux, les modalités de la pratique, en particulier le lieu du jeu et la fréquence, la question des conditions matérielles, de l'accès au jeu, et puis des relations sociales qui se construisent autour du jeu, avec qui on joue, est-ce qu'on joue seul et contre qui on joue. Est-ce qu'on se positionne contre des parents, contre des collègues, des pères, des amis, des institutions, un héritage ? Or, ça, ces pratiques-là, ces variations de pratiques, elles sont extrêmement différenciées sociologiquement. Parmi les quelques exemples qui ne sont abordés que dans l'article que je vous ai montré tout à l'heure, il y a, par exemple, l'effet de la classe sociale sur le genre de jeu favori. Donc, un exemple parmi très nombreux exemples. Les joueurs et les joueuses d'origine populaire sont disproportionnellement des joueurs et des joueuses de jeux de course automobile par rapport aux joueurs et aux joueuses des classes intermédiaires ou dominantes. Pour ce qui est du niveau de diplôme, on a un effet qui joue plutôt dans le sens où les... J'ai toussé, ça m'a auto-déconcentré. On a les gens qui sont très diplômés, dans le sens où ils ont un bac plus 3 ou davantage, qui sont surreprésentés en tant que joueurs ou joueuses de jeux d'adresse. On a aussi la question de l'équipement de jeu, qui est fortement liée à la question de la classe sociale. Les joueurs et joueuses d'origine populaire sont disproportionnellement des joueurs et des joueuses de console. Les joueurs et les joueuses des classes intermédiaires sont disproportionnellement des joueurs et des joueuses de console portable. Et pour les classes dominantes, c'est surtout l'ordinateur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pratique de la console chez d'autres catégories socio-professionnelles, mais les conditions matérielles d'accès au jeu varient énormément en fonction des classes sociales. Et ça, c'est quelque chose à quoi penser quand on s'interroge à l'équipement. Puis la question du lieu du jeu, et ça, c'est à la fois très connu et très visible, c'est fortement lié au genre. Quand les femmes jouent, elles jouent beaucoup dans l'espace domestique, chez elles. Quand il s'agit d'un lieu public, voire de jeu chez les autres, les femmes sont beaucoup, beaucoup moins représentées. Et c'est ce qui a contribué pendant longtemps à nourrir cette image du fait que les femmes ne jouaient pas. Ceci étant dit, j'ai choisi pour embrayer, et puis sur la suggestion de Nathanaël Travier, plutôt que de faire une espèce de grande catégorisation de toutes les pratiques qui existent et de comment on pourrait les organiser, de plutôt faire un panorama d'un certain nombre de pratiques très différentes sur lesquelles à chaque fois j'ai rassemblé quelques références dans l'idée que ça pouvait être des inspirations pour renouveler ou enrichir des programmes qui sont déjà rodés. Alors, le premier auquel je pense, étant donné mon sujet de thèse, c'était assez inévitable, et puis vu le contexte dans lequel nous sommes, c'est approprié, le jeu vidéo dans le cadre de l'institution, donc le jeu dans un contexte particulier qui est un contexte collectif. Moi, j'ai pas mal bossé, étudié les ateliers de jeux vidéo dans les EHPAD, dans les foyers logements, bref, dans les maisons de retraite. C'est un endroit très intéressant à observer parce que ça permet d'observer les espoirs qu'on place dans le jeu vidéo avec aujourd'hui le fait qu'on s'enthousiasme particulièrement pour les super pouvoirs du jeu vidéo dans le domaine de la santé, du lien social, qui sont le pendant des discours de panique sur les risques du jeu vidéo. Donc on a basculé des effets négatifs aux effets positifs du jeu vidéo. Donc du coup, il y a des vagues et de l'enthousiasme, très compréhensible, pour le fait de mettre en place des ateliers de jeux vidéo dans les EHPAD, en jouant sur le contraste entre technologies nouvelles et publics âgés. Ce qui est intéressant, c'est que parfois ça marche, souvent ça ne marche pas. Et observer les moments où ça ne marche pas, c'est particulièrement riche, donc je vous ai mis un article en particulier qui explique l'échec total de la tentative d'implanter un atelier de ce genre dans une maison de retraite en Allemagne, qui relève des choses inattendues du point de vue des chercheurs et des chercheuses, qui ne vous surprendront peut-être pas, mais par exemple qu'il est crucial d'avoir l'accord et l'enthousiasme des autres intervenants et intervenantes dans l'espace, qui sinon se sentent mis en concurrence avec un jouet tout neuf et brillant qui rend le cours de fitness vachement moins sexy. Et ça mène à des situations où on peut avoir des ateliers qui en sabotent d'autres pour être sûr de survivre. Ça, c'est des logiques de sociologie des organisations auxquelles on ne pense pas forcément, mais l'objet jeu vidéo n'existant pas dans un vide, c'est très important de le situer et de se rappeler de tout ce qui l'entoure, les angoisses, les peurs, les concurrences. Vous allez trouver qu'à chaque fois, je m'appesantis de manière exagérée sur les échecs, mais c'est souvent ce qui nous apprenne le plus. Pour ce qui est de la dimension, des perspectives artistiques sur les jeux vidéo, il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur les machinimas, qui sont des productions filmées à l'intérieur de jeux vidéo. La raison pour laquelle c'est si intéressant, c'est que c'est un parfait exemple de détournement de jeux vidéo. Donc le fait d'être dans un jeu et d'utiliser les commandes du jeu, de déplacer les personnages à l'intérieur du jeu, mais pas pour atteindre un objectif de jeu, avancer dans une quête ou dans l'histoire, gagner des points, gagner des combats, pour faire complètement autre chose, raconter une histoire d'amour, faire un film de guerre. C'est une manière de proposer aux gens de vraiment s'emparer d'un objet, d'en exploser les limites et de ne pas se sentir contraint par, ou du moins de se sentir moins contraint par tout ce qui vient avec le jeu vidéo et qui peut parfois être un peu pesant et lourd, surtout pour des gens qui commencent juste ou qui se sentent plus ou moins légitimes à être là. Un autre exemple que j'ai en tête, et là aussi vous retrouvez mon dada, c'est la question des relations intergénérationnelles. Donc même en dehors des institutions, il y a des efforts et de l'intérêt pour mettre en place des endroits où des gens de différentes générations peuvent jouer ensemble. Il y a des cas où ça marche extrêmement bien, À chaque fois que je mets des illustrations, c'est des cas où ça marche bien, on est d'accord. Il y a aussi des fois où ça ne marche pas, parce qu'en fait, c'est extrêmement difficile. On a tendance à effacer la complexité des relations intergénérationnelles sous des lieux communs du type « les gens vieux sont seuls et aiment les jeunes, ils voudraient passer plus de temps avec les jeunes ». En fait, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de gens âgés qui refusent vraiment ces endroits-là parce qu'ils se sentent renvoyés à une identité de vieux, d'incompétents technologiques, de grand-mère ou de grand-père, alors qu'ils ne le sont pas forcément, et qui peut compliquer considérablement l'adoption de ce genre d'atelier. Là encore, parfois, il marche très bien, mais c'est important d'être méfiant et prudent quand on se lance, en essayant d'envisager toutes les sources de complications possibles. Puis il y a aussi le problème du jeu sans appétence. Souvent, on veut mimer le jeu qui existe dans la famille, entre les grands-parents et les petits-enfants, sauf que ce jeu, à l'intérieur de la famille, est souvent structuré par un sentiment d'obligation. Et donc, on va avoir du mal à reproduire ce sentiment d'obligation chez des gens qui ne sont pas de la même famille, qui ne sont pas obligés de passer du temps ensemble. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Le jeu vidéo comme prolongement d'une passion, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Souvent, on a, dans les ateliers de jeux vidéo, deux choses qui émergent du terrain. Parfois, il y a des gens qui vont par passion et amour pour le jeu lui-même, pour la dimension ludique. Parfois, il y a des gens qui privilégient la sociabilité autour. Et on retrouve souvent ça sous la forme de « c'est une excuse pour se retrouver, prendre un café, papoter, échanger et avoir un support de conversation ». Il y a un troisième cas qui est particulièrement intéressant. C'est un moment où le jeu vidéo est vraiment un moyen pour une fin, mais pas un moyen pour la santé cognitive ou la lutte contre Alzheimer, ce qui peut être très stigmatisant, extrêmement mal vécu, et qui, par ailleurs, est encore au stade des expérimentations scientifiques. Le jeu vidéo comme moyen pour atteindre une fin, ça peut aussi très bien marcher quand ça s'intègre dans une passion qui existe déjà. Le cas typique, chez les gens avec qui je parle, c'est des gens âgés qui sont passionnés par les simulateurs de vol, parce qu'ils ont toujours aimé l'aviation, le pilotage, parfois ils sont eux-mêmes pilotes. Et en fait, pour eux, ils ne jouent pas à des jeux vidéo. Et c'est fascinant, parce que vous avez des gens qui ont dans leur grenier des casques de réalité virtuelle, tout un appareillage, qui ont appris à programmer pour pouvoir customiser leur avion, et qui vous expliquent les yeux dans les yeux qu'ils n'ont jamais joué à des jeux vidéo, ils ne voient pas ce que c'est. C'est très riche, en fait, parce que c'est un moyen d'amener les gens et de neutraliser le côté potentiellement inquiétant de jeux vidéo. Vous allez devoir être compétent techniquement et vous mesurer à des jeunes. C'est de dire, en fait, là, l'enjeu, c'est le voyage. Il s'avère qu'on passe par un jeu vidéo, mais ça, c'est presque accidentel. On pourrait ouvrir une encyclopédie aussi bien. Donc ça, c'est une dimension qui est particulièrement intéressante à explorer. Et puis, pour conclure, il y a la dimension politique du jeu vidéo, et en particulier des jeux vidéo qui se veulent politiques, qui veulent porter un message politique. Et c'est illustré par l'intérêt croissant des dispositifs d'éducation populaire pour le jeu vidéo, comme support de discussion et d'expérimentation. Donc là, à chaque fois, je vous mets des références que je vous encourage vraiment à aller regarder si le sujet vous intéresse. Et puis, j'ai mis l'emblématique jeu McDonald's de Mole Industria, qui est le type même du jeu casual avec un message politique absolument évident et qui est très intéressant à décoder, en particulier avec des jeunes. Et sur cette pratique-là, je conclue mon panorama et je ferme mon micro, symboliquement. Merci beaucoup.
Merci, Gabrielle. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? C'est vrai que je n'ai pas précisé, on fait passer chaque intervenant les uns après les autres et après chaque présentation, on a un temps de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Moi, je voudrais revenir sur la pratique du jeu vidéo, juste faire un petit sondage dans la salle. Qui a joué à un jeu vidéo depuis une semaine? Ah, ça fait plaisir quand même. Très bien. Merci. Donc vous êtes quand même des joueurs, la plupart. Donc ça correspond à peu près aux chiffres...
Oui, puis j'avais été prévenue. On m'a dit c'est des gens qui savent plein de trucs sur le jeu vidéo. Et du coup, j'étais très intimidée parce que j'essayais de faire honnêtement un état de l'art en essayant d'être large. Je savais très bien que vous saviez déjà tout ce que j'allais dire.
Et on a une question devant.
Bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est passionnant. D'abord, un petit point de précision. Moi, j'ai levé la main quand vous avez demandé qui a joué cette semaine. Mais honnêtement, moi, ça fait... un mois que je joue parce que j'ai un fils de 9 ans, c'est la première fois de ma vie, et je connais rien à rien, et je suis totalement surprise par le chiffre de 71% des Français qui jouent. Hein. Voilà, premier point. Deuxième point, Est-ce que vous pouvez juste développer un tout petit peu sur cette dimension politique, parce que je ne connais pas McDonald's Video Game et je ne vois pas du tout de quoi vous parlez quand vous parlez d'une participation citoyenne, etc. Est-ce que vous pourriez juste développer un petit peu? Je vous remercie.
Bah, merci beaucoup. Alors effectivement, le chiffre de 71%, il est à prendre avec des pincettes. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout l'effondrement de 71 à 44 en fonction de comment on pose la question et à qui exactement. Mais ce qui est important à savoir pour l'étude de médiamétrie, c'est qu'elle s'adresse aux 10 ans et plus. Et donc forcément, quand vous incluez les 10-17 ans qui sont entre 96 et 99% à jouer, ça déforme complètement la moyenne. On est plus sûr, en ce qui concerne les adultes, entre 60% et 2 tiers, a priori, mais je le fais à la louche parce qu'on n'a pas de chiffre mis à jour, malheureusement. Mais je comprends votre surprise. Pour ce qui est des jeux politiques. Alors, il y a... Bon, déjà, tous les jeux sont politiques parce qu'ils portent une certaine vision du monde, ça d'accord, et en particulier sur les jeux de guerre, c'est intéressant, et je pense que beaucoup de parents ont dû avoir des conversations, ont pensé avoir des conversations sur qu'est-ce que ça dit, ce jeu, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire, est-ce qu'il y a un bouton discuter de nos visions idéologiques et essayer de trouver un compromis raisonnable, ou est-ce qu'il y a un bouton faire la révolution, ou est-ce qu'il y a un bouton résistance pacifique? Pas vraiment, il y a un bouton tirer. Bon, aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus compliqué, mais je veux souligner que déjà, tous les jeux sont de potentiels supports à des discussions d'ordre politique et à des discussions de formation à la citoyenneté. Par ailleurs, il y a des jeux qui sont conçus exprès pour, et notamment les jeux de Mole Industria, sont tous gratuits, accessibles en ligne, tournent sur un navigateur. L'objectif est qu'ils soient le plus accessibles possible. Et ça, c'est un jeu qui était très à la mode quand j'étais jeune, enfin, quand j'étais au collège ou au lycée. Et ça, c'était particulièrement intéressant parce que nous, on ne voyait pas que c'était un jeu politique, il n'était pas labellisé comme ça, juste on se passait l'adresse et on y jouait parce qu'avec nos ordis pourris, on pouvait très bien y accéder. Et c'est un jeu qui dit, mais en fait, pour qu'une entreprise comme McDonald's marche, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut détruire l'environnement, il faut exploiter les gens, il faut mettre des choses absolument horribles dans la nourriture que vous vendez, il faut dépenser énormément dans la corruption et le lobbying, mais c'est juste, le jeu vous le dit par les mécanismes, il ne vous dit pas « ah là là, c'est mal d'être une multinationale », il vous dit « vous voulez être une multinationale et gagner le jeu, vous devez atteindre tant de rendement ». Comment vous faites ? On vous laisse regarder. Ah tiens, vous pouvez donner des hormones aux vaches. Et en fait, c'est une manière qui dit, parfois c'est la structure, c'est le système qui vous pousse dans certaines directions. Interrogeons-nous sur la structure et le système. Donc c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, c'est aussi parce que c'est un de ceux avec lesquels je suis le plus familier. Étant en thèse, je ne joue plus. Hein, c'est fini, je parle de jeux vidéo, mais je n'en fais plus. Hein. Donc j'ai souvent des exemples un peu datés, mais celui-là, je l'aime particulièrement.
Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui.
Juste un relais des questions ou des remarques qui ont été émises sur le live de Facebook. D'abord, des remarques par rapport au périmètre de l'enquête à laquelle vous faisiez référence, avec l'idée que peut-être Fortnite n'était pas pris en compte, et puis l'impact de la Switch non plus.
Alors, c'est une enquête de 2012, donc oui.
Oui, bah oui, évidemment. Voilà. Mais elle va être renouvelée, cette enquête ?
On aimerait qu'elle le soit. En fait... Pour être complètement honnête, elle a essayé d'être renouvelée, mais ça pose des questions sur le fonctionnement de la recherche en France, les financements de la recherche, donc c'est encore... On aimerait beaucoup qu'elle le soit, parce que c'est des données particulièrement fiables sur un domaine qui change très vite. Et oui.
Alors, un autre auditeur, je ne sais pas si on dit ça, dit « J'aurais pensé que les jeux vidéo créés par la PETA auraient été ceux mis en exemple. »
Ben, on peut aussi. C'est plus un cas de ce avec quoi je suis familière, mais je suis pas contre. Alors je sais que PETA a parfois des démarches un peu discutées, mais je pense qu'il faut bien connaître le public auquel on va s'adresser après. Je ne sais pas si les jeux fonctionnent comme leur campagne, mais je sais que les campagnes peuvent être assez graphiques, donc quand on s'adresse à un public d'enfants, il faut prendre ça en compte, mais après, oui, pourquoi pas. C'est un cas de j'ai 20 minutes et pas une journée. Mais je suis d'accord et je trouve que toutes ces remarques sont vraies. Il y a un énorme impact des nouvelles consoles qui arrivent sur le marché, des nouveaux jeux, des nouveaux genres qui émergent. Les MOBA étaient, je crois, pas spécialement quelque chose d'intense en 2012. Ils ont certainement changé beaucoup le profil des gens qui jouent.
Il y aurait énormément de choses à dire sur politique et jeux vidéo. Et ce c'est vrai qu'il nous faudrait toute la matinée pour répondre à toutes ces questions. On va peut-être prendre... Il y a une dernière question, c'est ça ?
Il y en a encore trois.
Merci. Merci. Ouais, simplement sur les questions des catégories socioprofessionnelles que vous évoquiez, par rapport à la pratique du jeu, à quel type de jeu. Est-ce que vous avez des données justement aussi sur les enfants de ces familles-là, etc. Parce que là, on est sur des adultes, donc qui ont un niveau effectivement d'études ou pas, etc. Qu'en est-il des enfants qui sont dans ces familles-là? J'ai pas l'impression forcément qu'un enfant qui est né dans une famille modeste va être intéressé uniquement par les jeux automobiles. Est-ce qu'il va se tourner quand même vers des jeux plus JRPG, etc. ou autres stratégiques? Voilà. Est-ce qu'il y a des données un peu là-dessus, ou est-ce qu'il y a une vraie reproduction sociale jusqu'à ce qu'ils sortent de leur modèle, ou voilà?
C'est une très très bonne question. J'ai été vite, mais ce que je montrais tout à l'heure, c'était des tendances comparées de différentes catégories sociales à s'orienter vers certains jeux. Mais je ne veux pas du tout dire que tous les gens d'origine modeste jouent à des jeux automobiles et que tous les gens d'origine dominante jouent à des MMO. C'est vraiment pas le cas. Effectivement, il y a beaucoup de diversité. Et puis aussi, l'effet le plus important reste l'effet de la classe d'âge, en fait. Il y a un effet fort des classes sociales, mais en fait, pour répondre à votre question, ce qui va jouer surtout chez un enfant qui vient d'une famille modeste, c'est que c'est un enfant. Et je pense que ça, stratégiquement aussi, ça joue beaucoup. Et puis, est-ce qu'il y a des études ? Alors, moi, je connais surtout des études nord-américaines, donc ça ne va pas beaucoup nous servir. Je sais qu'il existe de la recherche là-dessus, mais que, comme souvent, les classes sociales, c'est un peu le parent pauvre et qu'il y a un ralentissement de l'investissement dans l'étude des pratiques culturelles en fonction des classes sociales. Mais je sais qu'il existe des travaux là-dessus.
Bonjour. Oui, alors une question pour aller dans le sens sociologique de votre approche. En fait, vous avez parlé des gens qui disent ne pas jouer aux jeux vidéo alors qu'ils y jouent. Est-ce que dans votre démarche, l'inverse fonctionne aussi ? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent jouer aux jeux vidéo alors qu'ils n'y jouent pas. Je vais préciser ma pensée. C'est-à-dire que vous avez souvent une classe, on va dire des 10-14, qui disent jouer aux jeux vidéo alors qu'ils sont followers de joueurs de jeux vidéo. Et c'est souvent le cas, en fait, moi, pour travailler dans ce domaine-là, je me retrouve face à des joueurs qui disent être excellents, alors qu'en fait, ils sont excellents parce qu'ils regardent des vidéos de joueurs qui sont excellents. Voilà.
Oh, j'adore ce phénomène. Alors, c'est j'avoue que je ne l'ai pas encore vu. Je trouve ça génial, je vais aller explorer ça un peu plus.
Je disais, venez, je vous montrerai.
Il faut dire que moi, je m'intéresse aux plus de 60 ans et je soupçonne que les dynamiques ne sont pas exactement les mêmes. Ne serait-ce que parce que chez les gens de plus de 60 ans, c'est surtout les femmes qui jouent, en fait. Et, enfin, je ne veux pas dire que les femmes n'ont pas tendance à se vanter, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais c'est juste que les dynamiques de comment on se situe par rapport à ses pairs, quel est l'enjeu de masculinité qu'on met dedans, n'est pas le même. Il y a une chose qui me paraît aussi très intéressante, c'est la différence entre jouer et pas jouer, et la différence entre jouer et être bon, et jouer et ne pas être spécialement bon. Et ça, c'est vrai que c'est important à soulever, c'est qu'on a tendance méthodologiquement à faire une espèce de confusion entre les gens qui jouent, surtout les gens qui jouent souvent, et les gens qui sont bons. Ou qui se perçoivent comme bons, ou qui sont à l'aise. Il y a la question du sentiment de compétence qui est crucial et qui peut jouer énormément dans le sens de on ne veut pas être humilié en public, on veut essayer de maintenir une espèce d'aura de personne compétente sans avoir à vraiment le prouver, parce que si ça se trouve, en fait, on est moins bon. Donc oui, c'est vrai que ça aussi, stratégiquement, c'est très important.